Voilà, merci beaucoup pour ce temps de louange, d'adoration. Nous avons vu vraiment comment que le Seigneur nous encourage à justement se prosterner devant lui, de reconnaître ce que nous avons besoin, de reconnaître nos fautes, nos transgressions et de pouvoir aussi lui donner toute notre vie. Et ce matin, justement, on va faire la conclusion de nos lettres de l'Apocalypse. Il y aura beaucoup de matériel aujourd'hui parce qu'on va voir un peu les sept églises, qu'est-ce que ces églises veulent nous dire. Puis j'aimerais que vous puissiez écrire sur un papier, justement, peut-être les points que vous sentez que le Saint-Esprit vous dit que vous faites bien, que vous êtes vraiment dans la bonne voie de continuer de persévérer. Ou peut-être s'il y a un point qui va être énuméré à travers ces églises qui peut-être a besoin d'être travaillé. Alors, vous pouvez les écrire aussi. L'idée, c'est qu'on écrive un peu ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à ces églises. Parce que le but, comme nous allons voir de ce travail, de cette étude, c'est de pouvoir être averti à travers ces lettres et de pouvoir changer, transformer, pour que le Seigneur puisse, on puisse tenir ferme jusqu'au bout et qu'on puisse voir le Seigneur agir parmi nous. Et après, je vais vous dire un peu plus tard qu'est-ce qu'on va faire aussi avec ces feuilles. Ceux qui sont sur Zoom aussi, je vous encourage aussi à écrire aussi vos notes et aussi après, on va vous le montrer qu'est-ce qu'il faudra faire aussi avec ce sujet. Donc, l'idée ce matin, c'est justement de voir comment que le Seigneur, l'Esprit de Dieu a travaillé à travers l'apôtre Jean pour écrire ces sept lettres à ces sept églises. Le commentateur biblique McDonald dit, l'Apocalypse constitue le point culminant de la Bible. Elle nous révèle l'avenir de toutes choses. Même une lecture superficielle devrait constituer pour les incroyants une sérieuse incitation à la repentance et pour le peuple de Dieu un puissant encouragement à persévérer. Voilà pourquoi qu'on veut répéter, même si peut-être on a répété régulièrement ces différentes lettres, on veut comprendre, saisir exactement ce que l'apôtre veut écrire à ses églises, parce que nous savons que ce message pour ces églises est aussi destiné à nous aujourd'hui. Et comme chacun de nous, nous faisons partie de l'Église, nous sommes concernés aussi par ces écrits que l'apôtre Jean nous a laissés. On a vu que le choix des sept églises, ce n'est pas quelque chose de par hasard, mais on voit que c'est stratégique. On voit premièrement qu'il y a le nombre 7, qui est un symbole pour Dieu, le nombre parfait. Hein? Dans le livre de l'Apocalypse, on va voir plusieurs fois le chiffre 7. Les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, les sept esprits, les sept chandeliers. Donc on voit comment que toutes ces églises se trouvent dans la province d'Asie. Elles sont dispersées comme un arc de cercle. On peut voir un peu, brièvement, un peu à travers l'image qu'il y a sur le PowerPoint. Dans toutes les lettres qui sont envoyées aux sept églises, la construction de la lettre est assez semblable. On voit premièrement une salutation ou un rappel de qui est Jésus-Christ, qui a un rapport avec la suite de la lettre. Puis on voit le corps de la lettre avec les félicitations, les remarques ou les reproches faites à l'Église. Puis il y a les recommandations de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut changer s'il y a besoin afin d'être trouvé juste. Et la salutation qui est assez semblable pour les sept églises, que celui qui a des oreilles écoute ce qui est dit aux églises. Donc aujourd'hui, on a besoin encore d'écouter, de discerner ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et voilà pourquoi que je vous encourage à écrire les pensées que l'Esprit donne, vous mettre sur ce papier. Autant, justement, les choses que le Seigneur vous dit, c'est bon, continue, avance, pour t'encourager. Mais autant peut-être des choses de dire, tu as besoin de changer, ou tu as besoin de revenir au premier amour, ou tu as besoin de travailler tel point. Donc regardons premièrement la première église, c'était Éphèse. Donc, cette ville était placée à la jonction de la voie commerciale naturelle, un peu sur l'artère principale qui est amenée de Rome à l'Orient. Donc, une ville assez prospère qui possédait le plus gros port de l'Asie mineure. Au verset 2, le Seigneur va donner des compliments à cette église, comme une église travaillante. Elle est engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle produisait des fruits. Une église travaillante est une église qui travaille pour Dieu, qui donne des résultats, des fruits. Ici, il n'est pas parlé forcément de croissance numérique, mais de croissance spirituelle. Une église qui ne se relâche pas devant les défis, mais qui continue d'avancer dans la vérité. Il est dit aussi une église persévérante. Elle persévère malgré toute la souffrance. Elle avait dû être persécutée, elle a vécu des défis, des scandales, des conflits, mais malgré cela, elle persévérait. Ça montre que cette église a eu dans des moments difficiles, comme il y a eu des persécutions, mais a travaillé dans la persévérance. Il est parlé aussi d'une église disciplinée, une église qui exerce la discipline parce qu'elle voulait se garder pure. Elle ne cherchait pas à plaire à tout le monde, à être acceptée par la majorité. Une église disciplinée qui est capable de discerner s'il y a des personnes qui apportent des paroles qui ne sont pas dans la vérité de Dieu, qui discernent les personnes qui font le mal ou qui entraînent d'autres personnes dans leur péché. Une église instruite, une église bien équipée dans la doctrine, solide dans sa foi. Elle ne donnait pas son assentiment à n'importe qui se disait de Dieu. Au contraire, ceux qui parlaient au nom de Dieu, mais qui étaient des menteurs, elle les démasquait, elle les condamnait. Prochain diable, quand nous voyons justement cette église d'Éphèse, on voit toutes les qualités pour être une église qui avance, une église vivante, qui a un impact, qui est dans les voies de Dieu. Mais par la suite, l'Esprit va donner un reproche. Tu as perdu ton premier amour. Dans le sens que toutes ces qualités qu'elle avait développées, elle avait fait en perdant le but essentiel de ce qu'elle était comme église, c'est-à-dire de le faire dans l'amour. Elle faisait toutes ces belles choses sans amour. Elle travaillait sans amour. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais sans amour. Elle était persévérante, mais sans amour. Elle était disciplinée tellement qu'elle a perdu un amour, cet amour pour ceux qui étaient dans l'erreur. Au lieu de pardonner, elle rejetait. Elle était devenue une église exigeante, religieuse, où les règles sont plus importantes que l'amour. Alors, qu'est-ce que l'Esprit va dire à cette église? On le voit dans le verset 5. Il lui dit, allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens de ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. On peut avoir toutes ces qualités, justement, travaillantes, persévérantes, instruites, disciplinées. Mais si on a perdu notre premier amour envers Dieu, alors on travaille pour rien. Alors, on n'arrive pas à voir réellement ce que le Seigneur veut pour nous. La deuxième église, prochain dia, c'est Smyrne. Elle n'a pas eu de reproche ou d'avertissement de changer quelque chose. Il est dit dans le chapitre 2, verset 9, je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ce bout de phrase ne parle pas de richesse matérielle, mais plutôt de richesse spirituelle. L'église de Smyrne était petite, sans éclat, sans apparence par rapport à celle d'Éphèse, mais elle était riche, car elle a gardé cette flamme pour le Seigneur tellement intact que Jésus n'a rien à lui reprocher. Elle a été persécutée, mais elle est restée fidèle. Et pourquoi qu'elle est restée fidèle? À cause justement de cette persécution et de cette tribulation. Cette église vivait de la part de nombreux juifs qui étaient dans les villes, des injures, des persécutions qui étaient vraiment terribles. Même que certains ont terminé en prison. L'église de Smyrne était aussi une église sans hypocrisie. La persécution est un feu qui brûle le péché dans l'Église. Une Église qui marchait réellement selon le Seigneur, qui faisait réellement ce que Dieu le demandait. Et il y a cette promesse au verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. N'est-ce pas ce que nous aimerions avoir, chacun de nous, la couronne de vie, c'est-à-dire d'être sauvé pour l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, ça implique de rester fidèle malgré les défis et les persécutions, de rester fidèle dans la persévérance, même si on ne voit pas toujours Dieu agir dans notre vie. C'est vrai que des fois, Dieu permet la persécution. Dieu permet la souffrance pour nous rendre encore plus dépendants de lui, de nous montrer sa grâce et sa force pour résister et persévérer. Voilà pourquoi qu'il est important de rester fidèle jusqu'au bout, afin de recevoir cette couronne de vie. Prochain diable, nous continuons avec l'église de Pergame. Nous ne savons pas de quelle façon cette église a été fondée. Mais on dit que l'église était directement au milieu du territoire de Satan. Voilà pourquoi que l'Esprit dit à cette église qu'il sait où elle demeure, c'est-à-dire dans un endroit qui n'est pas propice à la lumière de Dieu. Une ville qui avait vraiment beaucoup, beaucoup de places où il y avait l'adoration des idoles, des différents dieux. Voilà pourquoi que l'Église a besoin de rester solide dans le Seigneur. Ce qu'il lui dit, c'est positif, il lui dit, tu retiens mon nom, ou tu restes attaché fermement. On le voit au verset 13. Il veut dire que malgré le fait d'être dans un endroit qui n'est pas favorable à la proclamation de Dieu, à sa parole, l'Église est restée fidèle et persévère, même lorsqu'arrive la persécution. Il est parlé aussi d'un témoin fidèle. Donc dans ce bout de phrase, on voit deux mots importants. Témoin, premièrement, qui veut dire que cet homme témoignait par ses paroles, par ses actes, son être tout entier qu'il était avec Jésus. Le deuxième mot de phrase était fidèle, qui veut dire qu'il n'est pas juste un témoin dans les temps favorables, mais qu'il est resté fidèle en toutes circonstances, même lors de la persécution ou la mort. Ce que l'Esprit va reprocher à cette Église, c'est le compromis qu'elle laisse fonctionner au sein du peuple chrétien. On voit qu'il y a la doctrine de Balaam, qui était de mépriser la chair et de diminuer l'importance de la pureté physique. Il y avait aussi la doctrine nicolaïte, qui était proche de l'enseignement de Balaam, dans le sens qu'ils encourageaient les personnes à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à commettre la fornication. Donc le fait que cette Église tolère ces doctrines au sein de l'Assemblée faisait qu'elle permettait le compromis, et ceci était un grand péché. Voilà pourquoi que l'Église va dire, change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Comment nous pouvons des fois être aussi comme cette Église? D'accepter le compromis. On est comme un pied avec Jésus, quand ça nous arrange, quand ça va bien, et un pied dans le monde où on fait à notre façon quand on veut. Aujourd'hui encore, l'Église, des fois, est assez semblable lorsqu'elle accepte justement le compromis dans sa doctrine, autre que celle de la parole de Dieu. Elle fait des choses ou agit comme la société. Elle joue avec le compromis. Et on voit malheureusement tellement d'exemples au sein de nos églises, de nouveaux mondes chrétiens, de tous les scandales, de toutes les choses qui arrivent. Donc, pour enlever ce qui est tortueux dans notre vie, le Seigneur attend de nous uniquement la repentance, de reconnaître nos péchés, le reconnaître comme seul sauveur. Voilà pourquoi qu'il est important de rester fermement attaché à Dieu et à ses valeurs, d'être un témoin fidèle. Prochain diable, on voit dans l'église de Thyatire. Cette ville était la plus petite des sept villes mentionnées dans ces lettres. Elle était réputée comme une ville industrielle, avec des différents corps de métiers comme des fédérations organisées. Donc on voit dans le chapitre 2, verset 19, on voit toutes les choses positives que le Seigneur dit à cette église. Et c'est pas rien. Il lui dit, je connais tes œuvres, c'est-à-dire, je sais ce que tu fais. Elle est comme une église. Ce qui résumé dans les versets suivants, ton amour. On voit que cette église met une emphase particulière à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Cet amour, c'est vraiment le signe de notre attachement à Dieu. Si on n'a pas cet amour, alors ce que nous faisons en tant que chrétien, ce que nous faisons en tant qu'Église ne sert à rien. Il est parlé aussi de ta foi. Pour que l'amour envers notre Seigneur puisse grandir, on a besoin que cette foi aussi, en celui qui nous a tout donné, soit présente, même grandie jour après jour. Il faut avoir cette foi pour rester en paix et dans la confiance, que même quand tout va en travers dans notre vie, quand rien ne fonctionne, c'est ici que la foi se réalise complètement. Il est parlé aussi de ton service, de son service. C'est traduit aussi par ton ministère. Lorsqu'on a l'amour profond pour notre Dieu, lorsqu'on a une foi qui est en celui qui est tout pour nous, alors notre ministère, notre service pour Dieu va être teinté de son amour, de sa joie envers les autres. Il est parlé aussi de ta persévérance. Lorsque nous avons l'amour, la foi, le service pour Dieu, alors la prochaine étape est d'avoir la persévérance. Qu'il y a quelqu'un, l'ennemi de nos âmes, Satan, qui ne veut pas nous laisser tranquilles. Mais nous savons qu'il y a un mais. Regardez un peu plus loin. On le retrouve au verset 20, avec cette mention de cette femme Jézabel. Donc on connaît cette femme Jézabel, qui était la femme du roi Achab, on peut le voir dans 1 Roi 16, qui entraîna tout le roi et tout le peuple dans l'idolâtrie. Elle a tué plusieurs prophètes et des hommes justes. Donc, ce que le Seigneur reproche à cette Église, c'est d'avoir abandonné la direction de l'Assemblée à cette personne qui s'appelle Jézabel, comme un peu un lien direct par rapport à ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec la reine Jézabel. Par son influence, dans sa place comme leader dans l'Église, elle encourageait les chrétiens dans des pratiques d'idolâtrie, de débauche, en se justifiant qu'elle faisait avancer cela pour la cause de l'Évangile, à cause de l'Église. L'autre point que nous retrouvons aussi dans le verset 20 est qu'il est dit que les chrétiens participaient au culte des idoles et mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Puisqu'il y avait beaucoup de festins, il y avait beaucoup de compagnies, de commerces, et les chrétiens faisaient partie de ces entrepreneurs, de ces commerçants, Et ils allaient dans ces festins et ils mangeaient comme les autres. Ils festoyaient comme eux, sans se poser la question si vraiment c'était juste. Voilà pourquoi la difficulté de ces chrétiens dans cette ville était le compromis que créaient les intérêts justement commerciaux. Le Seigneur, dans sa bonté, dit au verset 21 qu'il lui a laissé le temps de se repentir, de changer de comportement, mais elle ne l'a pas fait. Voilà pourquoi que le Seigneur encore aujourd'hui nous avertit. Voilà pourquoi encore aujourd'hui le Seigneur nous rappelle l'importance de marcher dans la vérité, de se repentir, de changer de comportement, afin qu'on puisse marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu. Et il dit au verset, chapitre 2, verset 25, à ceux qui sont restés fidèles dans cette église, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Comme cette église, nous sommes appelés à vivre dans cet amour envers le Seigneur, à le servir avec droiture, avec foi, dans la persévérance jusqu'à la fin, et ne pas se laisser compromettre par des pratiques qui sont loin de Dieu. La cinquième lettre, on voit que c'est à Sardes. Est intéressant de remarquer le lien étroit entre l'Église et la ville de Sardes. Donc la ville était une ville très riche, elle était aussi bien protégée. Sa situation géographique, justement, l'avantageait. Donc ils régnaient dans cette ville comme un orgueil, une illusion qu'ils étaient capables de tout résister. Ils avaient vraiment, ils étaient réputés, cette ville, pour son industrie de laine et ses teintures et sa débauche. L'Église reflète l'histoire de la ville. Cette congrégation s'était trop confiée en sa position confortable. Elle avait eu un passé vraiment glorieux, dont elle cultivait le souvenir, mais ses œuvres étaient devenues répréhensibles devant Dieu. Après avoir goûté à la vie, à la bonté de Dieu dans cette Église, elle s'est laissée engourdir par la mort. Cette église est devenue morte parce qu'elle s'est détachée de sa dépendance envers celui qui donne la vie. Elle pratiquait ses œuvres, non par l'esprit, mais par la chair. Donc cette église jouissait vraiment d'une réputation de faire beaucoup d'œuvres, de faire beaucoup de bien. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire au chapitre 3, verset 1. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Jésus va lui dire que malgré toutes les bonnes œuvres, elle est morte. Malgré tout ce qu'elle a fait pour ses fidèles, le bien qu'elle a fait autour d'elle, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Est-ce que les personnes qui rentrent dans l'Église, est-ce qu'ils sont plus impressionnés par toute la façade, pour les artifices, pour tout le show qu'on peut faire à l'Église, pour toute la louange, la prédication, pour tous les artifices qu'on voit dans les Églises, au lieu de vraiment être touchés par la parole de Dieu? C'est inévitable dans une église morte. C'est la présence de non-croyants identifiés comme des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent réellement pas dans le Seigneur, qui sont morts intérieurement. Jésus est obligé de leur dire de ce qui se passe dans cette église. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Réfléchissons pour voir si le Seigneur ne veut pas nous dire ça ce matin. Que nous puissions peut-être faire les bonnes choses avec Dieu. Peut-être dans le passé, nous faisions aussi des belles œuvres pour le Seigneur. Mais qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'est laissé gagner par toutes sortes de choses. Et dans notre cœur, notre espérance, notre assurance est morte. Et il va dire justement, prochain dia, sois vigilant et affermis le reste. Ça veut dire qu'il y avait un reste, il y avait quand même des fidèles dans cette église qui étaient restés fidèles au Seigneur, qui persévéraient. Donc Dieu, l'Esprit de Dieu demande aux dirigeants d'être attentifs à ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils pratiquent, afin de changer le tir, de rétablir la vérité. La plupart de ces dirigeants étaient tellement préoccupés parce que l'église devait offrir à la visibilité de l'église qu'ils ont oublié le message central de l'église, d'être des chrétiens qui professent le nom du Seigneur dans leur cœur, dans leur action, dans la vérité. Le Seigneur peut-être veut nous dire ce matin, je connais toutes tes œuvres, je sais tout ce que tu fais pour moi, mais tu es mort, tu es sans vie. Sois vigilant, sois centré sur moi, afin de ne pas tomber dans le faire, c'est-à-dire dans les œuvres, mais sois centré sur moi, dans ton cœur, sois attentif à mon esprit. Affermis le reste, c'est-à-dire te préoccuper, non pas de tous tes artifices, les images que tu peux projeter en tant qu'Église, mais affermis ceux qui sont faibles, affermis ceux qui ne sont pas encore souillés avec le monde. Nous avons justement une tâche, aujourd'hui encore. Le Seigneur nous demande encore ce matin de l'accomplir, de justement, de veiller les uns sur les autres, comme une véritable famille, afin de nous protéger, d'être prêts aussi à encourager l'autre, même à se sacrifier pour l'autre, pour pouvoir permettre qu'elle puisse avancer avec le Seigneur. La prochaine église, c'est Philadelphie. Nous ne savons pas qui a fondé cette église, mais l'église locale de Philadelphie était comme une église modèle. En toutes circonstances, elle s'est appuyée sur la parole du Seigneur. Elle est restée sous l'obéissance à Dieu. Pour cette église, nous voyons que les salutations sont tournées vers l'avenir à cause de cette fidélité, à cause de cette persévérance jusqu'au bout. Elle va recevoir la couronne de vie. Il est dit dans le verset 8, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc, c'est-à-dire, nul ne peut fermer cette porte parce que c'est le Seigneur qui contrôle cette église, c'est Jésus lui-même. Voilà la réponse que c'est seul Jésus qui peut nous sauver. C'est seulement par Jésus que l'église va vraiment vivre, fonctionner dans la vérité, dans la sainteté. Il est parlé aussi qu'elle avait peu de puissance. L'Église était victorieuse bien qu'elle ait peu de puissance. Avoir peu de puissance dans ce sens-là ne veut pas dire qu'elle a pas de puissance avec le Seigneur. Mais peut-être devant les hommes, elle avait peu de puissance. Elle n'avait pas vraiment d'éclat. Elle n'avait peut-être pas beaucoup d'argent. Elle n'avait pas beaucoup de prestige. Cette puissance-là qu'elle avait, elle l'avait dans le Seigneur. Tu as gardé ma parole. Premièrement, on voit que cette Église puise sa force dans la sainteté, dans la vérité de cette parole. C'est-à-dire qu'elle reste conforme aux enseignements de Jésus qui ont été donnés aux apôtres et aux évangélistes dans cette Église. Elle a gardé les doctrines qu'elle a reçues d'une façon juste, en adhérant complètement et sans mensonge. Il est parlé qu'elle n'a pas renié le nom de Jésus. On sait que Satan, la première chose qu'il veut faire, c'est extraire toute l'assemblée de tout chrétien, se veut justement de consacrer sa vie à Christ. Il veut que petit à petit, il nous endort, qu'il nous dévie, qu'il nous marque, qu'il nous fait aller dans le compromis pour que nous puissions nous éloigner de Christ. Et l'ennemi veut que nous commencions par renier Christ. Donc, ces quatre phrases clés que l'on retrouve dans cette église de Philadelphie, que l'église possédait, on doit aussi le rechercher aujourd'hui pour nous et pour l'église. Nous avons la clé de la réussite selon Dieu si on se conforme à ses exigences. On ne va pas arriver par nos propres forces, mais uniquement si c'est Jésus qui guide l'Église. On doit chercher avant tout la vérité, de garder la parole, de viser la sainteté de Dieu avant la puissance, avant la reconnaissance, avant la visibilité. Parce que cette Église est restée fidèle, elle va garder et protéger des épreuves du futur qui pourraient la détruire. Et l'Esprit va dire à cette Église dans le chapitre 3, verset 11, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravise le prix de la victoire. Elle était restée fidèle. Et le Seigneur lui dit dans cette promesse, je viens bientôt, tiens ferme. Voilà encore ce que le Seigneur veut nous dire encore aujourd'hui. Je viens bientôt, tiens ferme cette espérance, cette assurance que tu as en Christ, ce désir de travailler, d'être persévérant, tiens ferme jusqu'au bout. Tu vas avoir la victoire. Et on arrive à la dernière église, Laodicée, que nous avons vue la semaine passée. Était un lieu très commercial. Elle avait un centre bancaire, elle avait de nombreux commerces de confection de vêtements, elle possédait une école de médecine et renommée pour traiter les maladies des yeux. Mais Laodicée ne possédait pas de source d'eau potable. Donc elle faisait venir l'eau par un aqueduc. Et pendant 10 km, cette eau traversait les plaines pour arriver jusque à Laodicée. Donc cette eau qui était chaude, des sources chaudes, arrivait tiède dans la ville de Laodicée. Voilà pourquoi que cette eau tiède fait vomir. Voilà pourquoi qu'il dit au chapitre 3, verset 15, je connais ta conduite, et je sais que tu es ni froid ni bouillant, ah si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc on sait que les eaux tièdes n'apportent ni la vie ni le soulagement. Elles servent à rien. L'église d'Odyssée n'avait aucun témoignage dans la ville. Elle n'apportait pas la vie spirituelle à ses compatriotes. Elle n'aidait personne dans la souffrance. Elle était pitoyable, elle donnait la nausée, comme on pourrait dire. Parce que l'église ne jouait pas son rôle dans la société, le Seigneur ne pouvait pas laisser l'église continuer de cette manière, donner au monde une image minable de la foi chrétienne. Voilà pourquoi que le Seigneur veut que nous soyons bouillants. Il veut que nous soyons bouillants pour lui dans notre marche chrétienne, que nous puissions vraiment marcher avec une foi dans l'ardeur, dans la vigueur. Il veut aussi que nous soyons froids, c'est-à-dire froids dans le sens d'une personne vivifiante, stimulante, qui apporte le rafraîchissement. Lorsqu'on est en présence de cette personne, on sent dans la paix, on sent qu'on est rafraîchi à côté d'elle. Donc le Seigneur nous dit, je veux que tu sois soit bouillant, soit froid, mais pas tiède. Tiède, c'est-à-dire en paix avec le Seigneur, en paix dans le monde. Et là, il va dire, je vais te vomir si tu fais cela. Alors que faire pour remédier à ces situations? Le prochain diable le voit. Regardez dans le chapitre 3, verset 18. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Des vêtements blonds pour te couvrir afin que tu ne voyes pas ta honteuse nudité. Et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Donc l'église d'Odyssée avait cette même autosuffisance par rapport à sa richesse spirituelle. Mais il faut que cette richesse passe par le feu afin qu'elle soit épurée et qu'il reste que l'essentiel, c'est-à-dire l'or pur. Il est parlé aussi de vêtements blancs. Dans cette ville qui fabriquait des vêtements colorés, ils ont besoin d'avoir des vêtements blancs qui représentent la pureté devant Dieu, d'être nettoyés, d'être lavés sans faute. Donc d'avoir un cœur pur, lavé de toute souillure du péché et des compromis avec le monde. Il est parlé aussi d'un collier pour oindre les yeux, un médicament, un remède qui permet de guérir les yeux de la cécité, de l'aveuglement. Ils sont encouragés à prendre ce médicament afin qu'ils voient réellement dans quel état ils sont. Voilà pourquoi qu'on le voit dans le premier mot du verset 18, « Achète chez moi ». C'est comme l'Esprit de dit « Achète chez moi ». Le Seigneur conseille aux chrétiens de cette église d'acheter de l'or, des vêtements à collier. Pas n'importe où, chez lui. C'est-à-dire pas n'importe quel article, mais de l'or purifié par le Seigneur. Des vêtements blancs qui sont donnés par le Seigneur. Un remède capable qui rend la vue par le Seigneur. C'est lui seul qui prouve, qui procure la véritable richesse. C'est lui seul qui couvre les fautes de son vêtement justice. Et c'est lui seul qui permet de voir clairement à nouveau. Et nous avons vu ce verset que nous connaissons bien, Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » On a dit justement qu'on cite beaucoup ce verset pour les non-croyants, pour dire, ben, quand le Seigneur est à ta porte, puis tu ouvres. Mais dans ce paragraphe, dans ce contexte, il est parlé de chrétiens. Il est parlé justement des chrétiens de la Odyssée, qui pensaient être spirituels, qui pensaient être l'Église, mais qui étaient loin de Dieu. C'est comme s'ils marchaient, c'est comme s'ils se disaient marcher avec Dieu sans Jésus-Christ. C'est comme Jésus-Christ était en dehors. Voilà pourquoi il dit je frappe, j'attends à la porte pour que tu ouvres, pour que je puisse passer du temps avec toi, pour que je puisse t'écouter, pour que je puisse te redresser, t'encourager, pour pouvoir marcher d'une façon juste et digne. Alors regardons, pour terminer, si cette Église, elle vous encourage à écrire sur votre papier, pour voir peut-être justement, si peut-être par rapport à si cette Église, je vous encourage à peut-être durant cette semaine à reprendre la lecture de ces églises, de ces lettres aux églises, pour voir dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc Éphèse, c'est l'église sans amour. On dit qu'elle représente l'ère apostolique, la fin de l'ère. Après, la première église flamboyante, à un moment donné, il y a eu comme la fin. Elle avait bien commencé l'église avec les nouveaux apôtres, avec les nouveaux chrétiens. Mais à un moment donné, c'est une église sans amour. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont des églises qui sont actives, qui mettent l'accent sur l'orthodoxie, c'est-à-dire sur la doctrine, mais qui manquent de ferveur spirituelle. Smyrne, c'est l'église persécutée. Les églises missionnaires et autres églises qui endurent la persécution. Pergame, c'est l'église du compromis. On le voit dans l'époque de Constantin, comment qu'il a fallu que toutes les personnes deviennent chrétiens. C'était comme la religion d'État. Il y a eu à un moment donné du compromis. Les rois venaient des prêtres et puis les leaders du peuple devenaient aussi des pasteurs. Aujourd'hui, on peut parler des églises qui sont soutenues par le gouvernement, ou c'est le gouvernement qui gère l'église, au lieu que ce soit vraiment Dieu. Thyatire, c'est l'église mondaine et confuse. On parle de l'époque de l'apostasie papale, où justement, à un moment donné, avec les différents papes qui sont venus, c'était plus le pouvoir, c'était plus la visibilité, mais où il n'y avait plus aucune ferveur du Seigneur dans l'église. Aujourd'hui, on pourrait parler par rapport aux nombreuses sectes, comment que justement les gens sont perdus dans les différentes sectes qui sont là dans notre société. Sardes, c'est l'église morte ou de tradition. On dit que c'est l'époque du Moyen Âge, où l'église fait simplement d'avancer sans vraiment de changement, sans vraiment d'avoir une ferveur pour le Seigneur. C'est une église qui est de tradition. Elle est là parce qu'on est là. Les gens vont à l'église par tradition. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des églises qui font preuve d'un formalisme croissant ou d'un déclin spirituel. La forme est plus importante que la ferveur. Philadelphie, c'est l'église ferme et vainqueur. On peut parler de la période de la réforme avec Luther, où on me donnait justement, il y a eu cette réforme pour revenir vraiment à la foi, pour revenir à la grâce de Dieu, pour revenir dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est toutes les églises qui sont vraiment spirituelles, qui fonctionnent avec le Seigneur, qui marchent. Laodicée, c'est l'église ni froide ni bouillante. C'est l'époque des derniers jours, où justement l'église a un pied avec Dieu, un pied dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les églises du monde, populaires, satisfaites d'elles-mêmes. Des églises qu'on entend parler beaucoup, beaucoup avec peut-être des orateurs, des pasteurs, des évangélistes qui sont charismatiques, qui font de belles choses, mais où c'est mort. L'église qui est tiède. Donc on voit que Smyrne est la seule église avec celle de Philadelphie qui ne reçoit pas de reproches ou de recommandations à la suite de quelque chose de négatif. On aimerait justement que ce soit la même chose pour notre église. On aimerait pour que ce soit la même chose pour chacun de nous. Que si Jésus venait ce matin parmi nous, il pourrait dire la même chose qu'il a dit à Smyrne. Voilà pourquoi que l'apôtre Jean va commencer à dire l'importance de lire ses paroles ou ses prophéties afin de les écouter et par la suite d'obéir. Chapitre 1, verset 3, il dit: Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Voilà pourquoi nous avons étudié depuis plusieurs mois ces différentes églises, pour comprendre ce qu'ils ont vécu, pour pouvoir être touchés nous-mêmes, pour dire: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'église? Qu'est-ce que je dois faire aussi en tant que personne? Ces prophéties sont été apportées pour que les personnes les écoutent. Soyez avertis que le temps de la fin est proche. Nous rappeler que nous devons veiller à être attentifs, à garder notre foi solide. Alors nous allons prendre un petit instant de silence, de réflexion. Peut-être que vous avez écrit quelque chose sur votre feuille. Alors je vous propose une chose. Peut-être que vous avez écrit des choses pour vous, peut-être pour vous rappeler. Mais je vous encourage peut-être sinon à prendre un autre petit bout de papier. Peut-être Clémentine peut encore distribuer si vous avez tout rempli. Mais j'aimerais que vous écriviez dessus peut-être 2, 3 mots. 2, 3 mots que le Saint-Esprit vous montre, que vous devez peut-être changer, transformer. Et ensuite, vous allez le plier et ensuite, on va le ramasser. Vous allez mettre votre nom dessus et on va le redistribuer dans quelques temps. L'idée, c'est de dire: OK, Seigneur, à travers ces recommandations que tu donnes à ces églises, à travers ce que je vois, j'ai besoin peut-être d'aller de l'avant avec toi. J'ai besoin de faire certaines choses. Mais, comme il est dit dans ce texte, il faut faire lecture, il faut entendre ces paroles, mais il faut les mettre en action. Alors, vous allez dire au Seigneur: Seigneur, ce que je vais écrire sur ce papier, je veux le mettre en pratique. Si tu me montres que j'ai perdu mon premier amour, je veux vraiment le mettre en pratique, je veux être rafraîchi par toi. Si peut-être je vis en compromis avec le monde, je veux aussi être changé, transformé. Si tu me dis que je suis fidèle, que je suis ferme de continuer, alors je veux continuer avec toi. Le Seigneur va vous donner peut-être 2, 3 choses pour vous encourager à avancer avec le Seigneur. Alors marquez-le sur un bout de papier, vous le pliez, puis après vous mettez votre nom dessus. On va le ramasser, je ne veux pas le regarder, on va le garder un certain temps. Et à un moment donné, dans quelque temps, on va vous le redistribuer pour voir si réellement ce que vous avez écrit, vous l'avez fait. Parce qu'on peut être touché aujourd'hui. On peut dire, Seigneur, c'est vrai, c'est un beau message, c'est des belles paroles dans ces lettres, mais peut-être dans quelque temps oublié. Alors, quand on l'écrit, ça reste une trace écrite. Alors, prenons quelques instants simplement pour écrire quelques mots. Et ensuite, on va le ramasser et on va le garder un certain temps. Et ensuite, au temps voulu, on va vous le redonner pour voir comment que le Seigneur agit, pour voir comment que le Seigneur a travaillé en vous. Et on va pouvoir entendre des témoignages de votre part. Alors, laissons le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit nous le dit régulièrement dans toutes ses lettres, dans la salut, dans la fin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On peut interpréter cela aussi parce que nous sommes l'Église. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à chacun de nous. Oui, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, qui est vraie, qui est comme une épée à double tranchant, afin que nous puissions être changés, transformés, afin que nous puissions couper ce qui n'est pas à ta gloire, afin d'enlever ce qui nous empêche de vraiment marcher d'une façon juste avec toi. Seigneur, tu veux nous interpeller à travers ces lettres. Que ces situations nous arrivent aussi à chacun de nous. Et tu veux nous interpeller pour nous dire, change, reviens. Redresse-toi, tiens ferme ce que tu as. Ne laisse pas le compromis, ne laisse pas le monde te gagner. Ne perds pas cet amour, cette vigueur que tu as pour moi. Alors Seigneur, on veut écouter ton esprit ce matin. On veut réaliser que ces paroles sont là pour nous aussi. On veut réaliser que tu veux nous interpeller pour changer. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui est plein de patience avec nous. Mais tu ne veux pas nous laisser dans le péché. Tu ne veux pas nous laisser dans le compromis. Tu ne veux pas nous laisser pour être tiède. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous permettre d'avancer avec toi. Tu peux te permettre de vraiment de nous encourager pour marcher d'une façon juste et digne devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, que nous puissions écouter avec ton esprit, que nous puissions écrire sur ce bout de papier cet engagement à changer les choses, à abandonner certaines choses, à grandir dans certains points, à persévérer dans ta fidélité. Oui, Seigneur, on sait que nous ne sommes pas seuls et que tu vas venir encore nous aider. Ton esprit est là avec nous jour après jour pour nous permettre d'avancer. On veut, Seigneur, que ta grâce nous encourage à avancer avec toi. Merci. Merci pour ce rappel. Seigneur, on veut prendre cet engagement encore ce matin dans ce que nous avons écrit sur ce papier, que nous puissions, Seigneur, te remettre, que tu puisses voir ce que nous avons et qu'on puisse avancer avec toi et qu'on puisse agir dans l'action. Afin que, Seigneur, lorsque tu vas revenir, nous ne soyons pas surpris de ta venue. Mais que nous puissions t'attendre avec joie, avec confiance, parce que nous avons été fidèles jusqu'au bout. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne ici présente, que ce soit ici dans la salle, que ce soit sur Zoom, sur YouTube. Tu connais, Seigneur, ce qu'il vit, tu connais les difficultés, les défis. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les visiter d'une manière particulière maintenant, que ton esprit se révèle à eux, que ton esprit, Seigneur, leur montre ce qu'ils doivent changer, ce qu'ils doivent améliorer, ce qu'ils doivent demander encore plus avec force pour pouvoir être selon ton cœur. Oui, fortifie-les. Permets qu'ils puissent grandir et progresser, que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur leur cœur, sur leur vie, sur leur esprit, et qu'ils puissent être des témoins fidèles. Qu'ils soient des chrétiens bouillants, qu'ils soient des chrétiens qui soient froids, mais non des chrétiens tièdes. Qu'ils soient des chrétiens qui rafraîchissent les eaux, des gens qui sont bouillants, pleins de vigueur, qui témoignent qu'ils ont cette paix, cette joie qui vient de toi. Alors bénis-les, fortifie-les, Seigneur Jésus, et que ton nom et ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, ta paix repose sur eux aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Nous te remercions et te louons, Seigneur Jésus. Amen.